Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du samedi 25 juillet 2026, les archives de l'architecte épisode 15. On se retrouve pour le récapitulatif de l'actualité financière de cette semaine. Simple respiration, consolidation ou pire avenir avec Wall Street qui marque une pause, Alphabet, Google qui inquiète avec des dépenses IA rocambolesques et on a vu donc un free cash flow qui est désormais passé en négatif, donc la bourse n'a pas l'air d'apprécier. Tesla qui déçoit également avec un recul jeudi en séance de quasi moins 15% et les hyperscalers Microsoft, Amazon, Meta qui sont désormais jugés uniquement sur leur capacité à rentabiliser leurs investissements autour de l'IA. Donc l'intelligence artificielle qui reste le sujet numéro 1 mais les investisseurs qui deviennent de plus en plus exigeants, coût réel des investissements, bénéfices à venir, dépenses de centaines de milliards à justifier. Le S&P 500 recule sur la semaine de moins 1%, le Nasdaq de moins 2,3%, le Dow Jones de moins 0,5%. Et enfin, les small cap américaines, le Russell 2000, moins 1%. Attention à la saisonnalité peu favorable en août-septembre, cumulativement aux midterms en novembre de Donald Trump, ce qui est statistiquement en plus la pire année des 4 années de présidence américaine quand on se trouve comme ça autour des midterms. Rotation sectorielle en cours, les secteurs porteurs qui étaient soumis donc à des prises de profit, les 7 magnifiques, l'IA, consommation discrétionnaire, communication, les capitaux se sont déplacés vers l'énergie, l'industrie, les matériaux, l'immobilier et les utilities. Les rendements aux États-Unis repartent à la hausse, le pétrole est plus élevé, l'inflation toujours présente et des anticipations d'une Fed qui restera toujours restrictive, sans même parler de hausse de taux potentielle puisque là ça serait assez catastrophique. Le marché passe désormais d'une logique de investissez autant que possible, notamment dans le secteur des semis et de l'IA, à montrez-nous les retours sur investissement à court moyen terme et c'est un changement de paradigme. Hors commodités et obligations, le Brent et WTI, donc le pétrole, progresse fortement autour de 100$ le baril. En cause, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient encore et toujours et les inquiétudes sur les approvisionnements mondiaux. L'or résiste toujours assez bien, mais il reste indécis autour de 4000$ l'once dans un contexte obligataire haussier ainsi que le dollar américain qui s'est démontré plutôt fort ces dernières semaines. Un contexte de pression inflationniste avec une remontée des rendements obligataires et une pression également supplémentaire sur les valeurs de croissance, ce qui nous amène donc au Bitcoin et aux cryptos qui pour l'instant continuent de digérer la fin de ce bear market. On ne sait toujours pas s'il y aura un nouveau point bas ou non d'ici l'automne. Beaucoup jouent cette fameuse zone des 50 000$ à plus ou moins 5 000, plus ou moins 10 000 pour les plus aventureux. Toujours est-il, le Bitcoin s'est démontré plutôt résilient malgré la faiblesse du Nasdaq sur la fin de semaine. Les flux des ETF sont restés positif malgré quelques sorties vendredi. Le sentiment est mitigé entre l'attente d'un point bas final lié au cycle de 4 ans d'ici à cet automne et les espoirs initiés autour du Clarity Act avec une deadline là avant qu'ils partent tous en vacances au 7 août 2026. Donc vraiment, ça s'approche sous une quinzaine et je crois avoir vu passer du côté des réseaux sociaux que les marchés prédictifs ne donnaient plus que à hauteur d'une 30-40% grand maximum selon les marchés pour une réussite et une signature donc de ce Clarity Act sous quinzaine, ce qui pour l'instant a l'air de coincer également au niveau des chartes éthiques et notamment liées au président des États-Unis. Également, vous vous en doutez, ça sera toujours fortement dépendant aux réactions et aux taux de la Fed puisque déjà de ne rien faire, c'est pas si mal actuellement, mais si on avait à quelques moments que ce soit une hausse de taux de la Fed à cause de l'inflation, et bien derrière le marché crypto bien entendu en subirait les conséquences. La semaine prochaine qui sera une semaine relativement cruciale pour cet été et c'est ce qui va sceller le sort justement de ce mois d'août à venir. Plusieurs événements majeurs, on aura la décision de la Fed par rapport à ces fameux taux, le PIB américain, l'inflation, PCE, les résultats de Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Visa, Chevron, Coca-Cola, un tiers du S&P 500 et pas les plus petits noms pour le coup publient ces résultats, l'évolution du pétrole à suivre bien entendu, au-delà de 100$ ça va devenir très compliqué à nouveau, taux à 10 ans des États-Unis qui, s'il poursuit sa hausse, mettra à nouveau les valeurs de croissance sous pression. On se fait un tour très rapide de l'analyse technique, vu qu'on avait passé pas mal de temps hier, c'est juste pour avoir un petit peu la vision de ce qui s'est passé en fin de semaine. On a un DAX pour l'Europe qui clôture dans le vert 1,36, également le CAC 40 à 0,88, l'Eurostox à 0,87, le CW8, l'indice monde de Amundi, 0,67, 0,63 pour le WPEA, le dollar américain 101,46, donc donc toujours avec une envie d'aller rejoindre cette zone des 103 points, tandis que le Nasdaq clôture à 28 128. Toujours le dos rond, toujours une sensation de distribution à court terme qui pourra nous conduire dans un premier temps quelque part autour de 27 500, dans un second temps autour de 26 000. Il en va de même donc pour le S&P 500 qui a clôturé à l'équilibre, mais qui risque de sortir semaine prochaine avec des oscillateurs comme le MACD qui vont croiser à la baisse de cette contraction en triangle à la baisse justement, donc 7200 dans un premier temps puis 7000 pour le S&P 500. Les taux, qu'ils soient courts ou longs, ont reculé légèrement pour la France, l'Allemagne et les États-Unis donc sur cette fin de semaine, avec jusqu'à du 0,80 de retrait pour la France après être passé cette semaine, comme vous le savez, au-dessus des 4%. Le gold de 4052 est en train encore et toujours de se poser. Les oscillateurs là, c'est le miroir inverse de ce qu'on vient de voir pour le S&P et le Nasdaq, sont plutôt en train d'essayer doucement mais sûrement de nous annoncer un futur croisement haussier. Donc ce qui, pour le coup, théoriquement, en tout cas au niveau de l'analyse technique, nous donnerait plutôt un move au niveau de l'or si jamais ça se gâte au niveau du reste des marchés entre août et septembre. Crypto total toujours cloqué à la moyenne mobile 200, 2160. Le Bitcoin 64 000 toujours au-dessus de la moyenne mobile 200. On va voir comment va se clôturer la semaine. Ethereum toujours sur une zone dure. Dès qu'il a essayé de franchir les 2000, malheureusement, ça n'est pas passé. Le RSI médian à 41 pour sa part, qui est une belle zone de démarcation pour Ethereum, fait office de barrage. Injective toujours dans sa petite séance ici, qui se comporte plutôt pas mal. On a également toujours de la force pour BNB, BTC. Le BNB face au dollar surfe littéralement sur sa moyenne mobile 200. Solana face au dollar a rencontré donc toute cette zone dure des 80$ et pour l'instant ça ne passe pas. Vous vous doutez bien que si on fait un nouveau point bas du côté de Bitcoin, eh bien là on risque de descendre un petit peu plus bas également pour Solana. AltBG, Capital B, donc la fameuse action qui est disponible au PEA en termes de Treasury Company et qui pour l'instant gravite autour de 50 centimes. Il nous faudra reprendre toute cette zone des 70 à 80 centimes pour essayer de s'extirper vers le haut. On a clôturé pour Coinbase à moins de 2% à 158$. Il a buté sur la grosse zone dure des 180$. C'est le point pivot pour Coinbase qui par la suite devra s'affranchir des 210 puis des 235 et ensuite on devrait revoir sans problème l'ATH sur le cycle suivant, donc haussier. Ça continue de pousser également pour Apple qui clôture à 333. Comme on l'avait vu dans l'émission d'hier, on a tout le secteur également défensif et avec en tête de file pour les États-Unis Lockheed Martin qui nous a fait une semaine donc où il est passé de 485$ à 585, quasi 90. Là aussi, les oscillateurs annonçaient un petit peu la musique. On voit qu'on a du volume échangé sur ce titre. On a Netflix qui reteste par en dessous sa moyenne mobile 200. Est-ce que toute cette zone comprise entre 65 et 70$ va tenir ou est-ce qu'on aura besoin d'aller à l'étage inférieur autour de 60$? En tout cas, pour du DCA, pour du long terme, je suppose que c'est une zone qui mérite son intérêt, en tout cas pour l'instant. On a Tesla, comme on l'avait vu, qui nous a fait une bougie des enfers, donc à voir ce que ça pourra donner si elle vient au contact de la moyenne mobile 200 à 283$ pour Tesla. Toujours côté défense, bien que ça soit pas Dassault Aviation, on part du côté de Dassault Systèmes en euros, donc plus 8% sur la fin de semaine. On a une belle petite trend ici qui est en train de se mettre en place sur un titre qui, court moyen terme, a été très baissier après avoir connu des dizaines d'années très haussières. Donc une correction des plus marquées où on a quand même reculé, si on mesure depuis le top jusqu'ici, de moins 72% pour Dassault Systèmes, qui n'est pas à confondre bien entendu avec Dassault Aviation, ça n'a rien à voir. Et quand on regarde un petit peu le chart de Dassault Aviation, voilà, c'est le miroir inverse, ça a été une hausse continue depuis 2020, le crack Covid, 62€ jusqu'à un top récent, 361€. On a le luxe qui reprend un tout petit peu, LVMH qui défend son support, 450€. Je suppose même que la famille Arnault défend son propre titre sur ces supports-là. Et pour l'instant, on n'est pas vraiment ces derniers trimestres dans un mood où le secteur du luxe a su se montrer profitable et peut-être sexy aussi par rapport à ce qui s'était passé les années précédentes. Hermès plus 1,26, on a L'Oréal également. Enfin voilà, tout le secteur qui a bien rebondi sur cette fin de semaine. On passe du côté de l'Asie avec le taux à 30 ans. Pour le Japon, proche des 4 points à plus 1,56. Le 20 ans, 3,67. Et ensuite, toutes les actions qui ont reculé en simultané du Kospi qui se bataille lui aussi sur son support des 6400 points. Il a clôturé la semaine à moins 6 quasiment, à 6690. Donc beaucoup de volatilité et de levier sur le marché coréen. Et on clôture donc avec la vue sur les ETF covered call du Nasdaq qui, pour le JEQA, a clôturé à 0,24 en positif. Donc c'est le fameux UCITS en Irlande qui vous permet d'accumuler, tandis que le distribuant, lui, a pris une claque un peu plus importante et recule de moins 1%. Ceci étant dit, quand on voit le JEQA qui est à l'équilibre par rapport à l'autre et au maximum pour la distribuante moins 1, comparativement au Nasdaq qui est à moins 1,15, eh bien peut-être que en effet, et là aussi je vous invite à creuser, je suis toujours en train de le faire comme je disais là aussi dans les deux dernières émissions de mon côté, la JEQA pour des Européens, ça semble être celle qui absorbe le mieux cette volatilité. Et pour rappel, pour ceux qui n'ont toujours pas vu justement les émissions précédentes et qui ne savent pas de quoi il en retourne autour de cet ETF qui est relativement récent pour le coup, donc faites attention en plus au niveau des encours si un jour vous vous positionnez sur ce genre de produit. C'est censé répliquer donc le Nasdaq en première intention, sauf qu'il y a une stratégie de covered call derrière pour vous permettre d'avoir ce qui pourrait s'apparenter entre très gros guillemets, parce que c'est pas ça dans la réalité, à un dividende, à un coupon qui vous est versé et qui pourra pallier justement à la volatilité du Nasdaq. Donc en gros, vous choisissez de vous frotter à un des marchés qui est les plus volatiles, la technologie américaine, tout en vous disant, ok, si ça se passe pas bien, j'essaierai d'amoindrir un petit peu cette volatilité, c'est comme ça à peu près que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, bien entendu, ça va être en fonction de votre âge, de votre appétence au risque. Par exemple, une personne qui a 20-25 ans aujourd'hui et un horizon de temps d'investissement d'une quarantaine d'années, elle va pas se casser trop la tête avec ça, elle va préférer directement aller acheter le fameux Nasdaq pur et dur et subir les affres de volatilité complètement démesurées des fois du marché américain et de la tech qu'on connaît ces dernières années. Donc faites attention à vous, comme d'habitude, faites bien vos propres recherches, creusez. On a la chance d'avoir en effet, notamment quand c'est édité par des Amundi ou même peu importe, sur les brokers américains ou ceux qui formulent ce genre d'ETF, beaucoup de documentation. Le but, c'est d'aller lire justement un minimum ces docs et derrière, on trouve pas mal de réponses. Vous avez aussi également aujourd'hui des sites comme Just ETF ou des sites qui vous donneront toute la pluie et le beau temps autour des ETF, ce qu'ils contiennent, les frais, des comparatifs avec des ETF équivalents ou similaires. Donc aujourd'hui, en ligne, on peut vraiment tout trouver. La question, c'est en amont le temps que l'on souhaite y consacrer plutôt que de juste investir comme ça à l'aveugle. Ce qui, en soi, il y a des personnes qui le feront un petit peu à l'aveugle justement, qui prendront une seule ligne, par exemple le CW8 d'Amundi Monde, et qui derrière s'en préoccuperont quasiment jamais. Et peut-être c'est en ça que réside justement le grand gagnant à la fin sur des dizaines d'années, celui qui s'est tenu à une stratégie simple au possible, unique, d'un DCA au long terme sur une seule ligne, et qui potentiellement, en regardant pas justement le cours tous les jours ou en scrollant sans arrêt son téléphone pour voir s'il a gagné 2 francs 6 sous, eh bien on bénéficiera quelques années ou dizaines d'années plus tard. C'est peut-être en ça justement, et un peu comme on l'a vu par analogie sur le marché crypto, ceux qui perdaient leur wallet, que ça soit du côté de Ethereum et encore plus du côté de Bitcoin pendant 10 ans, 15 ans, et qui d'un seul coup retrouvaient soit une clé USB, un vieux disque dur, un vieux smartphone, et on voit des Bitcoins et des Ethers parfois bouger qui ont justement 10-15 ans. Voilà, c'est là où finalement on se dit que la psychologie humaine est notre principal frein et notre principal ennemi aussi sur les marchés. Et c'est quelque chose à bien avoir en tête systématiquement, notamment ceux qui se frottent au stock picking, de faire son propre choix d'action, puisqu'on a forcément des biais personnels et des secteurs d'activité qui vont nous plaire et nous parler plus qu'à d'autres. Ça reste malgré tout, même quand on est bien informé, un piège sur lequel pas énormément d'investisseurs performent au long terme. Il faut bien en avoir conscience. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de week-end et je vous retrouve mercredi. Ciao, ciao.